Salut à tous, bienvenue sur lebigessa.com. Vous écoutez un nouveau Coin du Renard et c'est toujours avec Eric Perronard. Donc, comment ça va, Eric?
Très très bien Stéphane, merci de l'appel. Ravi d'être de retour sur le bigusa.com.
Alors aujourd'hui, tu n'as pas peur. Alors, il faut expliquer pourquoi tu n'aurais pas peur.
Pas peur parce qu'on veut parler de no fear, qui veut dire pas peur en français. Donc, longue histoire, belle aventure, quelque chose qui a commencé il y a très longtemps et avec plein de gens intéressants dont on va parler. Donc, à ton service pour cette belle histoire.
Bon alors justement, Nofir, par qui ça commence et par qui ou comment?
Alors, no fear, déjà, pour en parler, on ne peut pas parler de no fear sans parler de Life is a Beach et Bad Boy Club, parce que l'équipe de no fear, c'était ça. C'était les gars qui avaient lancé Life's the Beach et le fameux Bad Boys Club. Et ça remonte à des temps préhistoriques. On parle de la fin des années 80, début 90. Et c'est une bande de jeunes, parce qu'à l'époque, c'était tous des jeunes, parce que c'est tous les gens de ma génération que j'ai connus au début, qui s'appelaient Mark Simo, Brian Simo, Boris, Ted et Jeff Surwall. Ils sont partis, une bande de gars de l'Illinois, de Chicago, des passionnés de moto qui voulaient réussir dans la moto. Mais bon, cette histoire-là, on la connaît, hein. Toi et moi, on l'a vécu personnellement, donc on va pas critiquer les gens qui ont envie de réussir dans la moto. Ça fait toujours plaisir. Et ces gars-là, c'était des bons Midwestern qui ont commencé par créer l'histoire de Life's the Beach, qui était la première boîte qu'ils ont créée. Donc, je te dis, fin des années 80, une boîte de lifestyle qui était très hip, très à la mode, comme on disait. Et donc, avec tout de suite l'arrivée de pilotes mythiques comme Ricky Johnson, David Bailey, Brock Glover, qui se sont intéressés à cette histoire. Donc ça, c'était en début des années 80. Donc l'équipe, encore, la dénomination No Fear n'existait pas encore à ce moment-là. C'était d'abord Life's the Beach, puis Bad Boy Club.
Est-ce qu'il faut qu'on traduise pour ceux qui ne comprennent pas ou c'est pas la peine à ton avis?
Oui, la Life's the Beach, la vie est une plage avec plein de jeux de mots que l'on peut faire par rapport à la culture américaine et à l'anglais, mais c'est des expressions de surfeurs. Donc, cette équipe de Mark, Brian, Boris et Jeff Surwall, ils avaient un cinquième qui s'appelle un autre Jeff qui est Theodosakis, que j'avais oublié, mais qui est un des gars aussi les plus importants de cette aventure-là, qui était le businessman de ces gars-là. Et donc, ils ont démarré une boîte de lifestyle qui a explosé. En Californie, parce que c'est là qu'ils avaient déménagé, qui a explosé en Californie fin des années 80, début 90. Et suite à ça, bon, il y a eu gros succès. Et c'est seulement que quelques années après que No Fear est arrivé. Et No Fear, c'était un des actionnaires qui s'appelait Jeff Surwall, qui, entre autres, était aussi le beau-frère à l'autre Jeff Theodosakis. Et ils ont démarré No Fear, qui est devenue une boîte de motocross vraiment étonnante à la fin des années 90. Alors, c'est difficile de parler de, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ce milieu-là. Donc, revenons un petit peu à la création. Cinq mecs, deux mecs qui sont deux jumeaux, Mark Simo, Brian Simo, qui sont des mecs fabuleux, qui ont vraiment bien, qui ont une culture automoto, Boris Said qui est aussi une culture automoto, Jeff Surwall qui est lui un ancien pilote de motocross et qui est à 100% moto, Jeff Theodosakis qui est plus moto également. Donc la boîte explose, tout va bien et là on rentre dans les classiques partenariats, les problèmes d'associés. Et sur la fin des années 90, Jeff Surwall part un peu avec le bébé No Fear, motocross. Et c'est là que ça démarre. Et Jeff Surwall, qui est un homme très intelligent, avait une particularité, c'est qu'il savait parler aux athlètes et il savait comment les convaincre de rejoindre la marque. Et on a pu voir dans la fin des années 90 une émigration des athlètes de très haut niveau vers nos FIR. Et comment il faisait ça? Eh bien, il avait une technique assez particulière. Il proposait aux athlètes, au lieu de leur proposer du cash, qui n'est pas, enfin, du cash, de l'argent, qui n'est pas très, c'est pas très sexy le cash. Je veux dire, un chèque de 100 000, de 200 000 dollars ou plus, ben, c'est de l'argent qui va sur le compte. Je sais que c'est beaucoup d'argent et pour beaucoup de gens, ça représente des sommes incroyables, mais c'est pas très sexy. Eh ben, Jeff Sirwall, il propose aux athlètes des avantages en nature. Et il allait voir les pilotes en leur disant, bah, attends, si tu veux rouler pour nos FIR, je t'achète 3 jet skis, ou je t'achète un camping-car, ou je t'achète la voiture de tes rêves et tout ça. Et ça a été sa technique au début. Et ça a très, très bien fonctionné. Il a réussi à enjôler des athlètes de très haut niveau avec des plans marketing qui étaient différents. Et rien que pour ça, je lui tire mon chapeau, parce que c'était pas facile d'amener les gens à changer des marques, comme on a pu le voir. Moi, je suis, comme tes auditeurs le savent, je suis un gars Fox, et il a pris des athlètes Fox comme Travis Pastrana ou Jeremy McGrath, et ça, c'était extraordinairement bien joué.
Est-ce que c'était pas du tout courant à l'époque de faire un tel truc? C'était complètement nouveau.
Oui, complètement nouveau. Alors bon, pour les Jeremy McGrath et des Travis, ils ont aussi été impliqués dans la boîte. C'était vraiment une grande famille. Tu vois, par rapport à des grosses boîtes à l'époque, comme était Fox ou était Thor avec Parts Unlimited, Jeff arrivait là-dedans avec une vision des choses beaucoup plus fraîche, et il dealait avec les athlètes directement. Il m'a même aidé à lancer l'US Open en 98. Parce que en fin des années 90, début du siècle, du 21e siècle, nos FIR étaient une marque relativement incontournable. Donc après ça, la boîte a décollé au début du siècle, au début du 21e siècle, quasiment. Je veux dire, c'était nos FIR et Fox qui étaient complètement dominants du marché américain, au moins en apparence. Les chiffres de vente n'avait aucune comparaison. Je pense que Fox était 10 fois plus gros que nos FIR, mais l'apparence internationale, avec tous les pilotes, avec Sébastien Tortelli, avec Kevin Windham, avec Travis Pastrana, avec Jeremy McGrath, on avait l'impression que c'était la plus grosse boîte du monde.
Est-ce que,
Donc,
au niveau des designs, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus différents que les autres? Est-ce qu'ils étaient aussi on the edge? Est-ce qu'ils étaient révolutionnaires au niveau des designs?
alors, ils étaient très très bons et très progressifs, particulièrement en remerciant Jérôme Mage, qui était leur français designer, qui a fait des très très beaux designs pour nos FIR. Et donc Jérôme Mage, qui travaillait avec Marc Blanchard il y a très longtemps, parce que c'est une autre, on est tous dans la même génération, ben, s'est retrouvé chez nos FIR et a retrouvé à faire tous les designs de nos FIR qui ont rendu la marque célèbre.
Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Parce que généralement, c'est un peu le phénix. Tu montes très très haut et puis bah, et la chute est d'autant plus terrible.
Absolument. Alors, à partir de là, bon, il y avait trop d'associés dans cette boîte. L'histoire d'amour s'est terminée. Marc et Brian Simo sont partis de leur côté dans le monde automobile. Boris Said est parti dans le monde automobile également. Il a monté des concessions BMW dans la région de San Diego. Theodosakis, lui, a eu un gros gros succès. Il a monté une boîte d'escalade qui s'appelle Prana, qu'il a réussi à monter à des chiffres étonnants, qu'il a vendu et qu'il a racheté après. Enfin, une très belle histoire. Et Jeff s'est trouvé un peu seul. Jeff Sirwall s'est trouvé un peu seul à la direction de nos FIR Motocross, qu'il a managé plutôt bien pendant une dizaine d'années, mais bon, qui s'est retrouvé un petit peu seul. Le business de l'équipement de motocross, je peux pas vous le dire assez, comme c'est difficile. Et il s'est retrouvé plus ou moins seul avec quand même une belle équipe autour de lui, mais néanmoins pas avec la puissance de feu des Fox et autres Fly ou autres Thor. Donc ça s'est arrêté je pense, il y a une petite dizaine d'années, nos FIA motocross. Tranquillement, discrètement, une mort douce, pas réellement de choses spectaculaires. Ça n'a pas fait de mal à grand monde. Ça a été la fin d'une belle histoire qui avait quand même duré pas loin de 25 ans entre le début du concept dans les années 90 jusqu'à 2010-11. Ça a été une belle histoire, mais c'est qui s'est terminée malheureusement.
Est-ce que la marque Nofir existe encore?
Oui, elle appartient à un groupe anglais, d'après ce que je sais. Ça pourrait ressortir, c'est comme JT Racing. Ça a été une sorte de JT Racing, mais sans le succès commercial que JT Racing a eu. Et ça fait partie de ces marques qui ne sont pas mortes, mais elles dorment quelque part.
Merci en tout cas, encore une très belle histoire du coin du renard. Et puis, on se
Ouais.
retrouve une fois, Eric.
Allez, à très bientôt, les amis de le Big USA.